Que le Seigneur nous bénisse dans ce partage. Saint-Esprit, je te demande, Seigneur, que tu puisses vraiment nous guider. Nous disposons nos cœurs, Seigneur, pour partager cette parole, recevoir de toi ce que tu veux nous communiquer. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré, digne d'être élevé. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que tu puisses vraiment régner dans nos vies, dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Alors, ce soir, je vais donc terminer mon intervention. C'est depuis le 1er avril qu'on a commencé sur ce thème. Hein. Dieu est vivant en nous. Avant que je puisse commencer à partager avec vous ce que j'ai préparé aujourd'hui, j'ai quelques passages bibliques à partager avec vous. Premièrement, je vous invite à ouvrir Exode chapitre 7, verset 1er. Exode. Exode chapitre 7, verset 1er. Vous savez, l'enseignement de Jésus est parfois surprenant. Ses paroles choquent, scandalisent surtout les hommes religieux. Et je vais vous montrer un passage. On commence déjà par Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon. » Et ton frère Aaron sera ton prophète. » Juste le premier verset. Dans d'autres versions, il est dit ceci, « Je fais de toi un Dieu. » Alors, vous connaissez bien cette histoire. Quand le Seigneur est apparu à Moïse. Franchement, Moïse ne voulait pas accepter la mission de Dieu. Mais Dieu a su quand même le convaincre. Et là, dans ce verset, Dieu lui dit, « Je fais de toi qui ?»
Dieu.
Il faut savoir que Pharaon était considéré comme un dieu. Mais là, le Seigneur fait comprendre à Moïse, « Toi, tu es mon représentant légal. » Et pour continuer cette pensée, on va lire dans Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 10, verset 33. L'évangile selon Jean, chapitre 10, verset 33 et 34. Les hommes religieux étaient vraiment scandalisés quand Jésus affirmait qu'il était le Fils de Dieu. Et dans ce passage, il est écrit ceci. Les Juifs lui répondirent, c'est-à-dire répondirent à Jésus, « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un être humain, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit, vous êtes des dieux. » S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut pas être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, « Tu blasphèmes » Et cela parce que j'ai affirmé, « Je suis le Fils de Dieu. » Les pharisiens ne pouvaient pas concevoir cette affirmation que Jésus est le Fils de Dieu. Effectivement, quand Jésus affirme qu'il est le Fils de Dieu, il confirme sa nature divine. Et ce qui est intéressant, Jésus va évoquer un passage qui est écrit dans le psaume 82, verset 6. Donc, c'est le psaume 82, verset 6. Qu'est-ce qui est écrit? J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut.
Amen.
Ah. Ah, ah, ah. Ça scandalise certaines personnes. Parce que dans notre mentalité, quand on parle de Dieu, on a toujours cette idée des dieux que les gens se sont quand inventés, les dieux que les gens adorent. Mais Jésus va dire à ces hommes religieux, mais la parole, qu'est-ce que la parole dit? Il est écrit que vous êtes des dieux. En fait, ce qu'il faut comprendre, Jésus affirme ici l'identité de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. On n'est pas le Dieu créateur, personne. Il n'y a qu'un seul Dieu. L'être suprême, l'être souverain, le créateur de la terre, des cieux, le créateur de l'homme. C'est celui que nous adorons. Mais lui, il nous a créés à son image. Et là, Jésus affirme en disant que vous êtes des dieux. Le mot là, des dieux, c'est synonyme, fils du Très-Haut. C'est vrai que c'est une parole qui est difficile à concevoir parce qu'on a une autre mentalité de Dieu. Les faux dieux que les gens se sont faits. Et le Seigneur a dit à Moïse, je fais de toi Dieu. Tu es mon représentant légal. Amen. Dieu a créé l'homme sur la terre pour que l'homme puisse le représenter sur la terre. Dieu, en créant l'homme, en quelque sorte, il s'est reproduit dans l'homme parce que l'homme est créé à son image. Vous savez, toute créature, quand il se reproduit, sa progéniture lui ressemble. Les enfants des chiens sont des chiens. Les enfants des chats sont des chats. Les enfants des lions sont des lions. Ce ne sont pas des chats. Et les enfants de Dieu sont des dieux. Dans le sens qu'on est créé à l'image de Dieu. C'est ce que Jésus affirme ici. C'est très important. Et je vais continuer mon intervention ce soir sur cette pensée que Dieu vivant agit en nous et à travers nous. Dieu vivant agit en nous et à travers nous. Ma première intervention, j'avais partagé avec vous cette pensée que Dieu est vivant. Et la deuxième intervention, j'avais insisté sur le fait que le Dieu vivant est un Dieu d'alliance. Et ma troisième intervention, on avait parlé sur ce thème que Dieu est vivant en nous par son esprit. Et pour ce soir, donc je vais partager sur cette pensée, Dieu vivant agit en nous et à travers nous. Alors, comme tout à l'heure je vous parlais de l'image de Dieu, c'est vrai que nous devons comprendre, réaliser ce que veut dire créer à l'homme de Dieu. Que Dieu a créé l'image de Dieu même. L'image de Dieu. C'est vrai que c'est quelque chose qui est profond, qu'on ne peut pas toujours concevoir avec notre intelligence humaine. Parce que le péché a corrompu cette image. L'homme créé à l'image de Dieu. Le péché a corrompu cette image. Malheureusement. Et vous vous souvenez quand Satan a tenté Ève? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous serez comme Dieu. Et dans d'autres versions, vous serez comme des dieux. En réalité, ils étaient déjà des dieux. Mais Satan voulait tout simplement les détourner de Dieu pour qu'ils puissent suivre la voie de Satan. Autrefois, Satan, qu'on appelait Lucifer, voulait être Dieu. Donc, il voulait également détourner l'homme de Dieu. Parce que quand le Seigneur a créé l'homme, il lui a donné l'autorité, le pouvoir, il a dit dominer sur tous les animaux, surtout l'homme. a eu ce pouvoir de Dieu, de régner sur la terre. Dites-moi s'il vous plaît, quelqu'un parmi vous a parfois une peur devant un animal? Mais pourquoi? Adam était en harmonie avec les animaux. Il n'avait pas peur. Vous voyez, c'est une trace du péché. C'est une trace du péché. Aujourd'hui, on a peur des animaux. Avant, ce n'était pas comme ça. Adam était en harmonie avec les animaux. Il n'avait pas peur des animaux. Vous voyez, les conséquences du péché. Et aujourd'hui, nous subissons toujours. Nous subissons encore cette conséquence. Ah là là. Alors, mon premier point, Dieu est vivant en nous et il nous a tout donné. On va lire dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Dieu nous a tout donné par sa puissance divine, il nous a tout donné. Et son but, c'est que nous soyons vraiment à son image. Alors, il est écrit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Les Écritures nous disent clairement que Dieu nous a tout donné, ce qui contribue à la vie et à la piété, mais au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Parce que c'est vrai que quand nous connaissons Dieu, c'est là où on découvre certaines choses. Mais oui, Dieu nous a tout donné. Et c'est par sa gloire et sa vertu. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis sa gloire dans l'homme. Aujourd'hui, quand nous nous convertissons à Jésus, on a la gloire de Dieu. On a la gloire de Dieu. Et le but de Dieu, c'est pour que nous soyons des participants à sa nature divine, comme il est écrit ici, afin que par elle, ça veut dire les promesses hein, que Dieu nous a données, vous devenez participants de la nature divine. C'est ce que Dieu veut. C'est pour cela que Dieu continue à travailler en nous. Nous changeons. Et mon deuxième point, c'est que Dieu nous transforme à son image. Il nous transforme à son image. On va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. En Jésus, nous ne devons pas rester les mêmes. On doit changer. On doit être transformé. Et Dieu fait son œuvre en nous pour nous transformer dans le but que nous soyons vraiment plus en plus semblables à son image. Et Paul dit ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Là, Paul, en s'adressant à ses croyants, il dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés à son image. Le mot contempler ici en grec veut dire katoptrizoma. Ça veut dire voir dans un miroir, faire se réfléchir, se regarder, se contempler dans un miroir. Et transformer en grec, vous savez ce que c'est, métamorphose. Qui veut dire changer dans une autre forme, transformer, être transfiguré. L'apparence de Jésus a été changée. Il fut resplendissant d'un éclat divin sous la montagne de la transfiguration. Et vous vous souvenez, Moïse, pendant qu'il était en présence du Seigneur. Il est resté 40 jours. Et quand il est descendu de la montagne, son visage reflétait la gloire de Dieu. À tel point que même les Israélites ne voulaient pas regarder ce sauveur. Ils avaient peur. La gloire de Dieu. Et Dieu est là pour nous transformer dans notre être intérieur. Dans notre être intérieur. Quand je contemple, là, je suis transformé. C'est notre responsabilité de contempler Dieu. Et effectivement, ce n'est que dans sa présence que nous pouvons le contempler. C'est là où il se passe quelque chose dans notre être intérieur. Il y a un travail, une œuvre que Dieu fait pour nous. Il nous transforme. On ne doit pas rester les mêmes. Et les gens doivent même dire, quand tu te vois, toi tu vas changer. Tu vas changer. Peut-être que physiquement ça ne se voit pas, mais même ton caractère, voit que tu vas changer. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Nous sommes donc appelés à ressembler à Dieu, destinés à vivre cette relation avec lui, vivre conformément à ses valeurs. Il s'agit bien sûr d'une ressemblance mentale, morale, sociale. Sur le plan intellectuel, l'homme a été créé doué de raison et de volonté, c'est-à-dire capable de raisonner et de choisir, ce qui reflète bien sûr l'intelligence et la liberté de Dieu. Sur le plan moral, l'homme a été créé parfaitement juste, innocent, et c'est ce qui reflète la sainteté de Dieu. Et sur le plan social, l'homme a été créé pour entretenir des relations, ce qui reflète l'amour de Dieu. Dieu fait ce travail, cette œuvre en nous. Lors de la prière, j'ai entendu une sœur qui priait, qui a dit que notre être intérieur se renouvelle. Et on va lire effectivement ce passage dans Colossiens 3, 10. Colossiens 3, verset 10. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Encore une fois, à l'image de Dieu. L'homme nouveau, oui, en Jésus, nous sommes une nouvelle créature. L'homme pécheur, notre nature pécheresse, ne doit plus prendre le dessus. Et nous sommes transformés, nous sommes renouvelés dans notre être intérieur. Dieu continue à faire cette œuvre en nous pour que nous soyons vraiment semblables à lui, l'image de Dieu. Et mon troisième point, nous sommes appelés à servir. Alors, quand je dis servir, je ne veux pas dire par là occuper une position, avoir un titre. Non. On va lire, on va prendre l'histoire d'Israël. On va lire dans Exode, chapitre 3, verset 12. Exode, chapitre 3, verset 12. Dieu dit, il dit à Moïse, bien sûr, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Là, Dieu dit à Moïse, « Quand vous sortirez d'Égypte, et vous me servirez sur cette montagne. » Quand je disais que ce n'est pas le fait d'occuper une position, d'avoir un titre, vous vous souvenez des jeunes gens les enfants bénis du prêtre Élie. C'était des prêtres. Ils avaient une place dans le temple. Ils servaient dans le temple. Mais la parole nous dit que c'était des vauriens. Ils ne connaissaient pas Dieu. Aujourd'hui, dans le monde religieux, il y en a qui occupent une place, qui sont célèbres, qui prétendent servir Dieu, mais ne connaissent pas Dieu. Et servir Dieu, c'est tout d'abord l'état de notre cœur.
Amen.
L'état de notre cœur. Je me souviens, il y a 3 ans, j'étais au téléphone avec ma mère et elle a témoigné. C'est la première fois qu'elle me l'a dit. Elle dit, tu sais, un jour, quand je priais pour toi, c'était avant que je me convertisse. Elle dit, je priais pour toi, je me lamentais devant Dieu. C'est après le décès de mon père, donc elle avait vraiment quelque chose dans son cœur, elle priait pour moi. Elle dit, un jour, dans l'adoration, et le Seigneur m'a dit, tu n'as pas à te lamenter pour ton fils, parce que ton fils me servira. Il y a 3 ans qu'elle me l'a dit. Après, je lui ai dit, mais maman, depuis ce temps-là, pourquoi tu ne me le disais pas? Effectivement, quand je me suis converti, je lui ai envoyé une lettre à l'époque. Vous savez, on n'avait pas Internet comme aujourd'hui. Quand on envoyait une lettre, ça pouvait durer 2 semaines, 3 semaines, surtout en Afrique. Et quand je lui ai envoyé la lettre, c'est là où je lui ai témoigné que je me suis converti. Elle était contente. Elle dit, je sais que le Seigneur va te guider. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Ce n'est pas destiné à certaines personnes. Et là, le Seigneur, quand il parle à Moïse, il dit que vous ne servirez pas à tout le peuple, hein, vous me servirez. Si Jésus est notre Seigneur, nous devons le servir.
Amen.
Mais ce n'est toujours pas le cas, malheureusement. Et dans Exode chapitre 4, verset 22, le Seigneur continue à dire ceci. Tu annonceras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. C'est ce qui s'est passé après. Et Dieu nous appelait à être également porteurs de vie. Porteurs de vie, c'est ce que Jésus va déclarer dans Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Le terme traduit ici en grec, hein, en abondance, ça veut dire périssant, qui signifie en excès, beaucoup, hors mesure, plus, au superflu, une quantité qui dépasse largement à ce à quoi on s'attendrait. Donc c'est une vie heureuse, une vie pleine de sens, une vie éternelle. La Bible nous dit une chose que la richesse, le prestige, la position, la puissance en ce monde ne sont pas des priorités de Dieu pour nous. En termes économiques, académiques et sociaux, la majorité des chrétiens ne sont pas issus de familles privilégiées. Vrai ou faux? Et la vie abondance ne veut pas dire l'abondance des biens matériels. Au contraire, même Jésus lui-même dira, le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Si c'était le cas, Jésus aurait été l'homme le plus riche dans le monde. Donc il ne s'agit pas des biens matériels, mais il s'agit d'autre chose. Et nous voilà dit, nous allons donc lire ce que la parole nous dit dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Jésus va faire donc cette déclaration. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. » Comme l'a dit l'Écriture, il dit cela à propos de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Là, Jésus parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir les croyants. Il dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Des fleuves d'eau vive. La vie que l'Éternel, que le Dieu vivant nous donne. C'est une vie en abondance. C'est une vie pour la communiquer aux autres. Parce que Dieu est parole. Et sa parole en nous est la vie. Et c'est cette parole qui illumine les gens qui sont autour de nous. La parole apporte la vie. Et on ne peut pas imaginer une vie en abondance sans le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus enseigne ici. Des fleuves d'eau vive qui doivent couler en nous. Nous devons apporter autour de nous la vie. C'est le Seigneur qui fait cette œuvre en nous. L'apôtre Paul, lors de son témoignage devant le gouverneur romain, va dire ceci dans Actes chapitre 26, versets 15 et 18. Il va témoigner en disant, « J'ai répondu, c'est quand le Seigneur lui est apparu, j'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur a dit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Là, le Seigneur, quand il s'est adressé à Paul, il dit, « Je t'ai choisi pour que tu sois mon serviteur, mon témoin, pour que tu apportes la lumière à ceux qui sont encore dans les ténèbres, que tu apportes la vie. » C'est ce que les gens ont besoin aujourd'hui. Ceux qui nous entourent, ils ont besoin de cette vie. Et Dieu fait de nous des témoins, des serviteurs. Tout dépend bien sûr de l'état de notre cœur vis-à-vis du Seigneur. Parce qu'il veut nous utiliser. Aujourd'hui, Jésus, physiquement, n'est plus sur la terre. Il a un corps qu'on appelle l'Église. C'est nous. Et il veut utiliser chaque membre. Je sais que pour ma part, il y a quelqu'un qui a témoigné. Et ce jour-là, j'ai compris que j'avais besoin de Jésus, Ce jour-là, dans ma chambre, j'ai fléchi mes genoux. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce Jésus que j'entendais, ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Je m'en souviens toujours. Quand j'étais adolescent, un jour, on avait entendu qu'il se passait quelque chose dans un stade. En fait, c'était, vous connaissez l'évangéliste Bonke, qui était décédé. Il était venu au Congo. Et à l'époque, j'étais adolescent. On avait entendu parler de ça, qu'il s'est passé quelque chose, là, des miracles au stade. Et quand j'ai lu, après avoir accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, j'ai lu son livre, qui est des manifestations surnaturelles. Et dans ce livre, il parlait du Congo, quand il était au Congo, ce qui s'est passé au stade. Il dit, ah oui, je me souviens, quand j'étais adolescent, j'avais entendu parler de ça. Dieu fait des œuvres merveilleuses. Et dans nos vies. Et il veut le faire également dans la vie de nos proches. Il veut nous utiliser. On va continuer. Le dernier point que je veux prendre, c'est que Dieu a donné des dons pour l'édification de l'Église. Il a donné des dons. Alors, tout d'abord, on va lire dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 6. Approchez-vous de Christ. Il est bien dit, approchez-vous. Hein. Donc, il y a quand même une démarche à faire. Hein. Ne pensez pas que tout vient automatiquement comme ça. Hein. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, tout comme Jésus, la pierre vivante, nous aussi on doit être des pierres vivantes, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. » Il est bien dit que nous croyons, nous chrétiens, nous devons être des pierres, pas des pierres mortes. Mais il y a une démarche à faire. On doit s'approcher du Seigneur. Ça ne doit pas se passer d'une manière automatique. Oui, je te dis, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Mais tu peux rester le même. Tu peux rester le même. Et Dieu veut édifier son Église. Et là, il dit que nous devons former une maison spirituelle. Cette maison, c'est l'Église. Oui, individuellement, on est le temple de Dieu, mais sur le plan collectif, nous sommes également le temple de Dieu, une maison de Dieu. Et nous devons nous édifier nous-mêmes. Et Paul, quand il va s'adresser aux Romains, dans le chapitre 12, 3, il va donc parler des dons que Dieu a donnés aux membres de l'Église. Dimanche dernier, bon, j'étais pas au culte, j'étais avec les ados. Cédric avait parlé également des dons spirituels, parce que j'avais traduit la prédication en russe, donc j'avais vu, moi aussi je voulais parler des dons. Mais là, aujourd'hui, je ne vais pas parler des dons spirituels dont Cédric parlait. On va lire donc dans Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons, il dit bien, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. La parole nous dit clairement que chacun de nous a reçu un don, peut-être deux pour d'autres personnes, pour certains, je ne sais pas. Mais du moment que Dieu vivant est en nous, il a mis quelque chose en nous. On a reçu un don de Dieu. Que Dieu ouvre nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels pour vraiment comprendre ce qu'il a mis en nous. C'est vrai que dans le monde chrétien, il y en a qui prétendent avoir des dons parce qu'ils veulent se mettre en avant, qui cherchent parfois la gloire humaine. On n'a pas besoin de nous mettre en avant. On n'a pas besoin. Mais ce que Dieu met en nous, ce qu'il nous a donné, c'est pour servir les autres. Je vais prendre un exemple. Par exemple, il est parlé du don de la prophétie. La prophétie, c'est une inspiration de Dieu. Parce qu'il y en a qui prétendent prophétiser, mais parfois, ce n'est que ses propres pensées. Et ce n'est pas le fait d'avoir un don de prophétie que je peux prophétiser à tout moment. Non. C'est quand il y a une inspiration de Dieu. Je me souviens un jour, dans mon église au Kazakhstan, il y avait une conférence. Donc il y avait beaucoup d'églises qui s'étaient rassemblées. Et il y avait un orateur. Vraiment, c'était une bonne parole. Et à un moment donné, donc, il avait dit de prier les uns pour les autres. Prier les uns pour les autres. Et il y a une chose qui avait dérangé, c'est qu'il disait prophétise. Alors, si je n'ai pas une inspiration de Dieu, mais je ne vais pas prophétiser. Je ne vais pas dire mes propres mots, mes propres pensées. C'est quand le Saint-Esprit veut, quand tu donnes une parole concrète, oui, on prophétise. Mais malheureusement, on le constate. Quand les gens prétendent prophétiser, mais ce n'est pas toujours une inspiration de Dieu. Mais on doit aspirer au don spirituel, hein. On doit aspirer. Moi, je crois à tous les dons que le Seigneur donne. Mais on doit également avoir un discernement. C'est important. Il ne faut pas dire à tout « Amen ». Les chrétiens disent parfois tout « Amen, Amen ». Là, je parle de la prophétie. Hein. Ouais, en vérité, oui. Mais là, je parle de la prophétie parce qu'il y a des choses parfois. Hein. Bon. Mais le Seigneur veut équiper son Église. C'est pour l'édification de son corps, pour que son corps puisse grandir, grandir, être à l'image de ce Dieu vivant, de ce Dieu glorieux. Et c'est vrai que Dieu peut produire en nous et le vouloir et le faire. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire dans Philippiens 2, chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu lui-même qui agit en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. Il est bien dit que c'est Dieu qui agit en nous. Ce n'est pas quand je veux, c'est quand lui, il agit. Et c'est conformément à son projet plein d'amour. Bon, ne dites pas que je n'ai rien reçu de Dieu. Si, il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Mais il faut le développer. Il faut le développer. Que le Seigneur nous aide. Nous avons bien sûr une responsabilité. En tant que croyant, en tant que temple de Dieu, on a une responsabilité. Laquelle ? Ou bien lesquels? Avoir une vie consacrée à Dieu. Paul va faire cette déclaration. On va lire dans Galates 2, chapitre 2, verset 20. Paul dit ceci. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Ça, c'est ce que Paul déclare dans sa vie. C'est une évidence. Aujourd'hui, on entend parfois des chrétiens dire « Oui, ce n'est plus moi qui vis, ça devient comme une devise. C'est Christ qui vit en moi. » Mais les gens vivent dans le péché. On prend parfois la légère, on cite parfois des versets bibliques comme ça, la légère. Pour les parler de sa propre vie, c'est une réalité. Que ce n'était plus lui qui vivait, mais c'est Christ en lui. Et au chapitre 5, 24, verset 24, il va dire ceci. « Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. » Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié. Autrement dit, ont fait mourir l'homme livré à lui-même. C'est quel homme? Notre nature pécheresse là qui veut toujours prendre le dessus. Mais on doit le crucifier, le faire mourir, parce que c'est maintenant l'esprit qui doit prendre le dessus, et non plus notre nature pécheresse. Et pour continuer, Paul dirait ceci dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 14 et 15. C'est que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Autrement dit, on ne doit plus vivre pour nous-mêmes, vivre pour Jésus. Il doit occuper la place qui lui revient. Il doit être le maître, le seigneur de nos vies, le roi des rois. Il doit être au centre de nos valeurs, c'est Jésus. C'est pour cela que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Si nous réalisons qu'il a donné sa vie pour nous, alors qu'il prenne toute la place. Lui, le Seigneur des Seigneurs. Et il va faire des choses merveilleuses dans nos vies, à travers nous. Deuxièmement, être édifié et fortifié en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 22. Éphésiens chapitre 2, verset 22. C'est en lui, c'est-à-dire en Jésus, que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux, c'est-à-dire avec les Juifs, hein, nous les non-Juifs, hein, pour former une habitation de Dieu en esprit. Nous devons être fortifiés, édifiés en Jésus-Christ. Oui, nous formons aujourd'hui une habitation de Dieu en esprit, individuellement et collectivement. C'est notre devoir. Et dans Éphésiens, chapitre 3, versets 16 et 17, Paul va prier pour les croyants en disant ceci: je prie qu'il vous donne, c'est-à-dire Dieu, hein, qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. D'être fortifié puissamment dans votre être intérieur. C'est notre démarche. C'est quand nous vivons cette communion avec le Seigneur. C'est là où nous sommes fortifiés, malgré même les épreuves que nous traversons. On aura un autre regard sur nos situations. Mais dans notre être intérieur, on est fortifié, on est fort. Et rien ne peut nous ébranler. Rien. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie en rose. Il y aura toujours des problèmes. Même les non-croyants ont des problèmes. Mais non, on a un Dieu vivant qui vit en nous et qui veut nous fortifier. Alors, pour terminer, nous réalisons que Dieu est vivant en nous. Et Dieu veut manifester sa lumière en nous. Il est dit que nous sommes la lumière du monde. Il veut que nous puissions apporter cette lumière autour de nous, autour de ceux qui vivent encore dans les ténèbres. Dieu est lumière. Il dit de nous que nous sommes la lumière du monde. Et cette lumière, c'est la vie que nous apportons aux autres. Nous pouvons également manifester l'amour de Dieu. Nous pouvons manifester l'amour de Dieu. Si Dieu nous demande d'aimer, parce que lui, il déverse son amour en nous. Dieu est et nous pouvons manifester cet amour autour de nous. Oui, nous pouvons aimer. Nous pouvons aimer. Pas par nos propres forces, c'est parce que le Dieu vivant fait quelque chose en nous. Et nous pouvons manifester la justice de Dieu. Dieu veut manifester également sa puissance à travers nous, c'est pour le bien des autres. Le Dieu vivant qui est en nous, il veut se révéler en nous également pour que nous puissions le connaître mieux en mieux. Le connaître, il veut se révéler en nous, dans notre être intérieur. Parce que Dieu est un Dieu de révélation. Quand on est sur cette terre, on doit apprendre à le connaître. La marche avec le Seigneur, c'est une marche de tous les jours. Et le Seigneur Jésus m'a bien dit que la vie éternelle consiste à te connaître, à connaître Dieu. Nous sommes appelés à le connaître. C'est ma responsabilité de chercher le Seigneur, de le connaître, mon désir, pour être transformé à son image, l'image de Dieu. C'est une profondeur. Il y a plein de choses que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Mais quand on reçoit quelque chose du Seigneur, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, ça donne la joie. Une joie immense. Quand on reçoit quelque chose du Seigneur, ça nous bouleverse. Tout cela, Dieu veut le faire parce qu'il veut être glorifié dans nos vies. C'est pour cela qu'il attend de nous que nous nous lui donnons la grâce qui lui revient. Qu'il vive en nous, qu'il nous transforme et qu'il agisse à travers nous. Cherchons le Seigneur. Personnellement, je le dis souvent, Seigneur, je ne te connais pas. Mais je veux te connaître. Je veux te connaître. Révèle-moi ta personne pour que je te connaisse. Bien que j'ai d'autres pensées, mais je ne vais pas continuer, je ne vais pas vous retenir. Quelqu'un veut prier pour terminer ce moment?
Seigneur Tout-Puissant, nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, d'être vivant en nous. Merci de nous avoir encore parlé ce soir, de nous avoir, Seigneur, éclairé, Seigneur, sur ton action dans nos vies, Seigneur, mais aussi ton attente, Seigneur, de notre part, Seigneur. Et nous voulons effectivement te chercher encore plus, Seigneur, nous approcher de toi, Seigneur, profiter de la vie que tu veux nous donner, Seigneur, et la répandre autour de nous, Seigneur, selon ta volonté. Merci vraiment de nous faire prendre conscience de ce que nous sommes à tes yeux, Seigneur, à chacun, Seigneur, que ce travail continue à se produire dans nos vies, Seigneur, et que nous puissions t'élever, te glorifier dans nos vies, dans notre Église, dans notre environnement. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, nous garde, que sa grâce nous accompagne tous les jours. Amen.